Et salut à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de L'Onde Curieuse, le magazine pertinent et parfois impertinent de Fréquence 7. Ce n'est pas la douce et calme voix de Sophie, vous l'avez remarqué, L'Onde Curieuse est transformiste en ce début de printemps. Chaque jour une nouvelle voix, chaque jour un nouvel humour et une nouvelle humeur. Aujourd'hui c'est Quentin qui vous présente le magazine avec moi dans le studio. Clara, bonjour.
Bonjour.
Salut, tu es stagiaire officiellement en technique aux côtés de Sylvain, notre pilier qui lui est toujours là.
Hello.
Et tu nous rejoins dans le studio aujourd'hui. On reçoit également Olivier Horry, philosophe invétéré, vétéran de la pensée. Salut.
Salut, bonjour à tout le monde.
Dis donc, on t'entend décidément tous les jours à l'antenne
J'aime bien.
En ce moment.
J'aime bien passer dans le coin, ouais. Et j'ai des amis, paraît-il.
Et tant mieux, aujourd'hui, ce qui t'amène dans l'onde curieuse, c'est le travail de fond que tu réalises dans le cadre de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Donc la journée elle-même se déroule le 15 mai et c'est une asso qui s'appelle Demain en Main qui organise.
Oui, tout à fait, oui, Gérard Bélanger, Jean-Louis Jouve, voilà, qui organisent ça, oui.
Donc la journée elle-même permettra à différentes associations qui œuvrent pour la paix, l'amitié entre humains, le respect, l'ouverture, de se rencontrer et de partager le fruit de leur réflexion avec le public.
C'est tout à fait ça, on ne peut mieux dire, le vivre ensemble en paix, quoi.
Ouais, alors ça a l'air, c'est facile à dire comme ça, c'est beaucoup plus complexe à réaliser. On note notamment que communiquer entre êtres humains, c'est jamais une chose facile. On part déjà de ce principe de base. Pour toi, par contre, communiquer entre humains, c'est une mission profonde, c'est presque un sacerdoce en tant que philosophe, en tant qu'enseignant, en tant qu'animateur de radio. Ton travail là dans le cadre de la JVEP, donc
c'est
l'acronyme.
C'est l'acronyme, c'est bon, JVEP.
JVEP, JVEPA. Ton travail de fond, porter des réflexions philosophiques sur des thématiques maîtresses du vivre ensemble en paix. T'as déjà travaillé donc les derniers mois sur les violences faites aux femmes, oui. La violence envers les enfants, les armes.
Oui, oui, oui. Avec en particulier un bouquin de Paul Auster, Bloodbath Nation, la nation bain de sang pour parler des États-Unis, où c'est un véritable carnage.
Ouais, c'est un carnage institutionnel en fait.
Oui, on peut dire ça, ouais.
Aujourd'hui, tu viens nous parler de médium, donc le médium, c'est l'onde, qu'elle soit curieuse ou non, qui circule parmi la société des hommes, qui produit des discours, qui produit des représentations et qui prétend faciliter la circulation des informations elles-mêmes. On en parle dans quelques instants, juste avant le traditionnel agenda culturel. Alors, un agenda qui commence avec une anecdote, Olivier, c'est un peu dans la thématique. L'autre soir, il y a 2-3 jours, je buvais un verre avec un ami, on bavarde d'abord de tout et de rien, on s'est pas vu depuis quelques mois, et puis au fil de la conversation, il commence à m'expliquer qu'il regarde une quantité astronomique de vidéos, via Facebook principalement, des vidéos qui proviennent de médias alternatifs et qui énoncent donc des vérités alternatives. Alors ça, c'est un concept particulier de médias. On en discute et en fait, il réalise, lui et moi avec lui, qu'il compile une somme d'informations partielles, partisanes, voire les deux, une somme, un micmac colossal, et que en fait, le cerveau a du mal à analyser, trier et des fois jeter certaines informations, en garder d'autres et les agencer. La France est-elle une entreprise financière? Qu'est-ce qu'une nation alors si la France est une entreprise financière? Comment est-ce qu'on s'y retrouve au milieu d'un flux d'informations continues et parfois non vérifiables? Est-ce que ça craint vraiment de chercher à sortir des discours dominants? Vous êtes invité ce soir à La Bobine, à Aubenas, à partir de 19h avec les Amis de la Décroissance du Sud-Ardèche pour questionner le complotisme. Et en fait, l'industrie du complotisme, parce qu'il y a, pas seulement le fait de soulever des questions sur des informations, il y a également toute une industrie de la production de ces informations ou de ces non-informations. On rencontre donc à La Bobine Mathieu Amièche, il est auteur et enquêteur. Son dernier bouquin qu'il vient présenter s'appelle « L'industrie du complotisme », donc c'est publié aux éditions de La Lenteur. La conversation s'annonce intéressante. ce soir.
Ah bah, complètement. Et puis je remarque une fois de plus l'actualité, bon, en l'occurrence l'actualité de la bobine, me fournit en matériaux pour réfléchir, c'est impeccable.
Pour réfléchir. Donc ouais. L'entrée est libre, vous êtes les bienvenus, il y a une participation aux frais qui est la bienvenue également. Voilà, tout ça à la bobine.
Ce soir toujours, si vous êtes dans le sud, les copains de la passerelle accueillent le collectif SSA 07 Sud-Ardèche.
Ouais, la passerelle à la Blachère.
SSA, un sigle à connaître, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, portée par une joyeuse équipe qui réfléchit depuis un an à la mise en œuvre d'une offre d'alimentation saine, disponible et abordable pour toutes et tous.
Ouais, c'est une réflexion qui est portée depuis longtemps, on en parle régulièrement dans l'Onde Curieuse. C'est porté depuis longtemps par la Confédération Paysanne, ça a été rejoint par Terre et Humanisme, c'est porté par le marché des producteurs du Viala à la Blachère. Sujet de fond, la sécurité sociale de l'alimentation.
Et si cette ébullition vous intrigue ou vous intéresse, c'est ce soir dès 18h, le repas de printemps organisé à la passerelle. L'entrée est libre, le repas coûte entre 3 et 5 euros. La soirée s'articule autour d'un jeu collaboratif, la marmite.
Ouais, donc si vous êtes du côté de la Blachère, vous êtes invité à la passerelle, n'hésitez pas. La marmite, je ne peux pas vous en dire plus, il faut être sur place, il faut s'investir pour faire exister la marmite.
Ah, c'est la soupe de pierre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le principe de la soupe
de pierre. J'ai l'impression que ça ressemble à la soupe de pierre. Je vais raconter l'histoire une autre fois dans les jardins suspendus.
toujours ce soir, un peu plus au sud, c'est à la commanderie de Jalès que vous êtes invité à la sortie de résidence de Radio Tutti. Vous les connaissez peut-être déjà, ils ont enflammé la place du village de La Baume en juin dernier pour l'ouverture du festival de La Baume en musique. Radio Tutti et les Barilla Sisters, donc, et, dont d'ailleurs le nom des Barilla Sisters a disparu, c'est un mystère. C'est un voyage musical complètement déjanté. Ils explorent les répertoires des chants de femmes traditionnels en Italie du Sud, en Galice et ailleurs. Ils viennent de s'offrir 4 jours de résidence à la commanderie de Jalès. Voilà, c'est des traditions musicales de droite et de gauche passées au shaker et livrées prêtes à danser ce soir à 18h30 à la commanderie de Jalès.
Et demain, le vendredi 12 avril, à Aubenas-au-Bourneau, une nouvelle étoile de la chanson pop française, Voyou. C'est du pop hybride et poétique. Seul sur scène avec sa guitare, ses machines, sa trompette et son air candide, accompagné d'un drôle de tube, Seul sur ton tandem.
Ça doit pas être facile.
Non, c'est compliqué. Déjà, le vélo, c'est pas simple. Il y a que 2 roues, mais alors, avec 2 selles...
Dans son nouvel album, Les Royaumes Minuscules, Voyou est allé puiser dans les rythmiques brésiliennes pour offrir une fois de plus des arrangements bien léchés et des textes conçus comme des films miniatures.
Donc le concert de Voyou au Bourneau avec en première partie Pop Harp, avec deux A, je ne sais pas comment on dit, Harp, Pop Harp. Une musicienne, une grande harpe rockeuse, c'est Annelise Périguet. Elle passe Metallica ou Nirvana à la moulinette de ses 47 cordes. Elle revisite complètement le répertoire de la harpe, entre des créations planantes et des reprises inattendues. Elle fait sauter nos idées reçues sur cet instrument, du classique, mais pas que, donc 47 cordes et une voix assez incroyable. On a écouté quelques extraits. Rendez-vous au Bourneau demain. Si ça vous intrigue, le concert commence à 20h45, l'entrée coûte 12 ou 15 euros selon vos capacités de paiement. La vente de tickets ouvre dès 20h et l'espace convivial est animé cette fois par l'association Miroir, c'est une association d'art social et solidaire. Plus d'infos auprès d'elle, auprès d'eux, autour d'une bière au Bourneau demain. Et musicalement toujours, encore demain, c'est à Viviez que ça se déroule, c'est la fin de la saison de la Smack 07, avec une soirée full reggae, Mystical Faya, un vrai groupe de reggae roots, je crois qu'ils sont 6, ils sont engagés, ils sont pleins d'amour, plein d'espoir, et la première partie c'est le duo de digital reggae Funky Bird, eux c'est des Ardéchois, ils sont accompagnés par le dispositif court-circuit, du coup les tremplins de la Smack, et ils ouvriront le bal de cette soirée, l'entrée coûte 18 euros à plein tarif, c'est à Viviez au Théâtre Municipal demain.
À Aubenas, salle de la Grenette, du 12 au 27 avril, il y aura une exposition « Trace », un duo entre les artistes Cam, Camille Mazet et Georges Marcos, Pélican Project, une expo de sculptures, de peintures, de totems et créations audio qui propose une immersion dans le mouvement de la nature. Nature-peinture, venez comme vous êtes pour le lancement de l'expo demain à 18h30 en compagnie des deux artistes. Vous serez ensuite libre de venir visiter l'expo tous les jours de 10h30 à 18h.
Merci, on termine cet agenda culturel avec le nouvel événement de Théâtre en cours. C'est la première édition de leur festival Chapeau Melon et Bottes de Queer en partenariat avec trois lycées du territoire. Qui a... Ouais, c'est pas mal joué.
Ouais, c'est pas mal joué. Ouais.
Après, va te faire queer un œuf,
ouais,
tout ça.
Ah ouais.
Le lycée Astier, le lycée agricole et le lycée hôtelier La Ségalière, c'est celui de l'Argentière. Ils abordent donc les questions, la thématique queer au sens large.
Donc aujourd'hui à 18h30 au lycée hôtelier La Ségalière à l'Argentière, il y aura La Ronde par la compagnie Les Fugaces, une pièce de théâtre à partir de 10 ans. Et à 20h, un cabaret queer proposé par les élèves du lycée hôtelier avec la compagnie Muerto Coco.
Le programme de Chapeau Melon et Bottes de Queer continue demain, vendredi, c'est à La Bobine à Aubenas à 18h30, un concert surprise, des discussions et à 21h, une pièce dansée dans mon petit salon de la compagnie Muerto Coco, à 23h, un DJ set avec Calvaire.
Et le temps fort du festival continue avec à La Bobine à Aubenas le samedi 13 avril dès 14h. Ouverture du village à Sceaux en continu avec un espace de conférences, des discussions, des stands des assos locales et la librairie du tiers-temps sera présente ainsi que la bibliothèque Les Lunes.
Ouais, pour l'après-midi, ça s'annonce riche en théâtre également, bah du coup, hein, c'est Théâtre en cours qui porte ça avec... Talent et brio, à 15h, du coup, c'est la compagnie Janine Machine et leur création Le PD. Si vous avez jamais vu ça, si c'est pas passé à côté de chez vous, ça vaut le coup. C'est toute une réflexion sur à la fois l'identité de genre, l'identité sexuelle, qui sommes-nous vraiment. À 18h, un temps d'échange et des conférences. À 21h, la pièce Nathalie de la compagnie Un Pied sur la Planche. À 22h30, c'est le groupe Ultramoule qui offre leur concert. C'est du punk disco féministe déjanté. Elles sont au top. Et à minuit, encore un DJ set de Calvaire. Toutes les entrées sont à prix libre. Tu nous fais continuer en musique, Olivier Horry.
Ah oui, de la nostalgie.
On voulait écouter du reggae et tu nous proposes du punk.
Oui, du punk rock. Oui, ben j'ai été rattrapé par ma génération, d'une certaine manière. Et puis, comme on parlait de médias, j'ai pensé à mon média un peu fétiche dans mon imaginaire, la BBC, d'où est parti l'appel de Londres.
Ouais, London Calling.
One with the yellowy eyes, the ice is
coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning.
Les Clash sur Fréquence 7, vous avez tous reconnu London Calling, c'était la proposition de notre invité du jour, Olivier Horry, notre invité de tous les jours, Olivier Horry.
j'ai mon rond de serviette dans le coin.
T'as ton rond de serviette et tu apportes ton grain de sel à toute réflexion qui mérite de se tenir. Aujourd'hui, on aborde la question des médias, donc moi, mon point de vue sur cette question, en tant qu'animateur radio, en tant que lecteur d'informations, en tant que même membre du réseau social Facebook, on reçoit tous les jours, on est soumis, comme on l'a dit en début d'émission, à une avalanche d'informations. Elles nous proviennent de sources et d'autres, des sources considérées fiables. On apprend par exemple que les médias traditionnels français sont des sources fiables d'informations, Libération, Le Monde, peut-être.
Plutôt,
en tout cas reconnus comme tels. Ils sont même, ils font même du fact-checking, ils ont des agences de vérification des informations pour être sûr qu'ils nous livrent une version potable de la vérité.
Potable, ouais, c'est bien comme expression. Potable, comme de l'eau potable. Est-ce que je peux me nourrir de ça ou est-ce que je m'empoisonne, quoi? C'est un peu le.
Ouais. Bah ouais, c'est un peu la grande question dans la circulation des informations. Donc, les médias, il y a les entités économiques, elles jouent un rôle sociétal prégnant. Moi, d'après moi, on a le mélange entre la grande agora anonyme qui est Facebook ou que sont les autres réseaux sociaux où tout le monde déclame des opinions et donne des points de vue sur telle ou telle question. Ces débats dans l'agora sont déjà orientés idéologiquement par toute une armée d'influenceurs et d'influenceuses. Ça, j'en parle dans mon émission à 100 ans près. Vous pourrez l'écouter à l'occasion. À côté de ça, les grands médias sont victimes d'une concentration économique massive. C'est du jamais vu. Hein.
Les grandes concentrations médiatiques aux États-Unis, on appelle ça les grands mongols, datent des années 50 déjà. Et ouais.
Bah là, aujourd'hui, on a quand même des empires médiatiques en France détenus par Lagardère, Bolloré, Patrick Drahi. Je crois qu'à eux trois, ils concentrent plus de 70% des titres de presse et des chaînes de grande écoute télévisuelle. Toi, tu, au milieu de tout ce brouhaha, tu es venu nous questionner sur le principe de média. Quel est ce médium? Quelle est cette interface entre un monde et un autre?
Oui, c'est-à-dire que en faisant un peu une liste, un inventaire comme celui que tu viens de faire entre donc des médias connus, identifiés et puis ce flot invraisemblable d'informations, on se rend compte si on voulait analyser tout ça, il faudrait développer toute une série de rhétoriques particulière, analyser des façons de dire, de faire, de montrer, très différente d'un média à l'autre, d'un lieu à l'autre, sur le net en particulier. Et c'est d'un travail infini qui est en plus un travail de sociologue, d'ethnologue même, je dirais. D'un point de vue philosophique, on a envie plutôt de prendre, je ne sais pas si c'est le plus petit dénominateur commun ou le plus grand commun multiple, mais c'est justement là, au-delà de la notion de média qui est un pluriel en latin, bah, aller au médium qui est un singulier en latin, avec cette petite couleur spirit, hein, le médium, qui est donc le médium, l'intermédiaire, hein, ouais. L'intermédiaire entre, par exemple, des gens qui ont perdu un proche et puis ce proche qui est voilà.
Bah ouais, ce qui est intéressant dans le médium, c'est qu'en fait, il est l'interface entre donc un monde sensible qui est le nôtre et un monde invisible.
Oui, c'est-à-dire qu'il est le médium, il est une interface, un intermédiaire entre les choses et nous, déjà. Donc le monde sensible dont tu parles, effectivement, nous sommes environnés de choses sensibles. Et puis il y a nous, notre conscience et les représentations que nous nous formons. Et entre ces choses et nos représentations, il y a le médium. C'est-à-dire la somme de tous les discours, de toutes les images que tu viens d'énumérer pour nous. Et donc ce médium s'interpose, il fait office de filtre, il fait office de d'aveuglement, ou plus que d'éclaircissement vraisemblablement. Et puis je crois que le plus préoccupant, c'est que ce médium, il vient se glisser aussi entre nous et nous. C'est-à-dire non seulement entre toi, Quentin, Clara et moi, et Sylvain, qui en plus il a la vitre. Mais donc il y a tout un discours qui se faufile entre nous, ce qui est encore plus grave que le fait qu'il se faufile entre les choses et nous. Et puis évidemment, bon, si on voulait poursuivre l'analyse philosophique, on pourrait aller jusqu'au fait que ce médium, il s'insinue entre moi et moi. C'est-à-dire quand je me parle à moi-même, que je réfléchis moi-même à ce que je fais et aux rencontres que je produis, enfin, etc., il faut pas perdre de vue que même dans ma façon de me dire les choses, je subis l'influence du médium.
Donc le médium, c'est ce que tu appelles la rumeur.
Oui. On en parlait hors antenne, c'est une des choses qui, dans ma carrière d'enseignement, peut-être le plus suivi, c'est l'Apologie de Socrate, parce que c'est un très beau livre d'initiation à la philosophie. Platon, dans l'Apologie de Socrate, raconte le procès de Socrate. Socrate est accusé de corrompre la jeunesse, il est accusé d'athéisme pratiquement, ce qui à Athènes en 399 avant le Christ, ça peut coûter vachement cher. Ça va d'ailleurs lui coûter très cher. Et il dit, moi j'ai deux types d'accusateurs. Il dit, j'ai mes accusateurs officiels, ceux qui ont porté plainte contre moi. Ils s'appellent Anitos, Lycon, Méletos, on les connaît. Ils sont pas très malins en plus, je vais pouvoir m'arranger. Mais par contre, il y a toute une série d'accusateurs dont certains, on peut donner le nom, ça va être Aristophane, qui est un peu le Molière d'Athènes à l'époque, qui s'est beaucoup moqué de Socrate, qui a beaucoup quand même abîmé sa réputation, quand même, faut être honnête. Et il dit, mais ça, c'est pas encore vraiment le problème, c'est la rumeur. C'est-à-dire, c'est la somme des discours qui se tiennent sur moi depuis, on attaque la troisième génération. Socrate est devenu un phénomène culturel de son temps, de son vivant, un peu comme Freud, si vous voulez. Et il dit, là, ça va être difficile pour moi de me défendre parce que mes accusateurs, ils sont en vous, ils sont entre nous, ils sont partout. Je fais comment ? Et quand j'en discutais avec mes élèves, je leur disais, bon, finalement, la première caractéristique du médium, de l'anonymat, de la rumeur, c'est l'anonymat. Ouais. C'est-à-dire, je n'ai pas derrière le médium, la source du médium, en tant que personne identifiable avec laquelle je peux entamer un dialogue.
Ou débattre, ouais. Ouais. Donc du coup, Socrate se retrouve accusé et condamné par quelque chose, une entité qui est floue et que toi, tu considères que c'est ça le médium.
Oui.
Et donc le médium, il produit des images, il produit des représentations et il s'appuie sur le langage. Donc le langage, oui. c'est un peu l'outil, c'est la
matière même du médium. Ouais.
C'est la matière du médium, mais en fait le langage, c'est le ciment qui lie une communauté. C'est-à-dire qu'on a des références communes qui permettent à un langage d'exister et qui permettent à la communication et à l'échange d'idées de se faire. Donc qu'est-ce qui fait que, pour rester sur l'exemple de Socrate, où on peut passer sur d'autres, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, des éléments de langage créent des concepts qui se cristallisent et qui sont communément admis. L'athéisme à Athènes, par exemple, ça a l'air d'être un reproche...
Majeur, oui. En général, quand on fait l'analyse de l'origine comme ça du médium et du discours qui est véhiculé dans le médium, en général, on retrouve toujours les mêmes éléments. On fabrique un langage, on fabrique des représentations pour avoir le pouvoir, pour gagner de l'argent et accessoirement pour avoir des rapports sexuels. Les trois grandes raisons, c'est plutôt des mobiles, hein. Ouais. Les trois grands mobiles de fabrication du discours, du médium, c'est s'enrichir, prendre le pouvoir et éventuellement donc
éventuellement le sexe.
L'actualité est assez fournie en ce moment. Je l'ai dit, l'actualité me fournit régulièrement mais pour mes réflexions sur la paix, parce qu'on vit pas vraiment une ambiance de paix. Donc effectivement, on voit bien que pour avoir des relations sexuelles, des gens très très haut placés sont dans la culture ou la politique, sont capables de faire n'importe quoi.
Ouais.
Et de dire n'importe quoi.
Et de dire n'importe quoi, et de faire entendre n'importe quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une... Alors, je sais pas si ça a été la même chose à toutes les époques, mais le discours médiatique au sens large produit une rhétorique guerrière, une rhétorique managériale. On est rentré là-dedans. Est-ce qu'on est du coup... Notre pensée est prisonnière d'un carcan d'idées orientées.
Oui, oui, complètement. Alors, ce qui effectivement existe depuis Socrate, ça fait quand même 2500 ans, Socrate, c'est le médium, ça c'est incontestable. Platon était d'ailleurs très sensible, c'est une des raisons d'être de sa vocation philosophique, hein. c'est dépouiller le médium, quoi, enfin, d'une certaine manière. Je pense qu'il a pas trop mal réussi. Ce qui change par contre, c'est la nature du médium, c'est-à-dire la nature, le support technique,
Le
support change évidemment, et la rhétorique change aussi, et les valeurs changent. Et je crois que nous sommes particulièrement aujourd'hui dans une rhétorique, un lexique, une grammaire qui est inspirée principalement de la croissance. C'est-à-dire qu'il y a une obsession de la croissance contre le développement, de l'accroissement quantitatif continu dans tous les domaines, hein, qui donne dans une chronique des jardins suspendus, j'explique ça, c'était super, ensuite c'est devenu hyper, ensuite giga, maintenant on attend les nanas terra gérables, tu vois.
c'est méga bien, c'est
à peine suffisant, méga, hein. Terra bien, c'est mieux. Alors bon, donc on voit bien que dans cet ordre d'idées, on n'arrête jamais. Il n'y a pas de limite. Alors, comme on ne peut pas aller plus loin en quantité, on passe à l'unique. Ouais. C'est-à-dire que un film, il peut être super, hyper, méga, terra, et puis après, qu'est-ce qu'on dit ? Donc, on dit, il est unique. Il n'y a pas un autre film à voir que le dernier film de Doualon. Ouais.
Donc l'idée, c'est de rassembler la pensée, fédérer la réflexion et en faire un bloc homogène.
Ouais, je crois qu'on peut pas le dire mieux. C'est-à-dire, on a construit une grosse pyramide et puis on met le machin en haut et il est époustouflant. Là, il est époustouflant. C'est-à-dire que t'es en arrêt cardiaque quand tu sors de la séance de cinéma, tellement le film est fort, extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, vous pouvez, le mercredi, au cinéma, vous pouvez, toutes les semaines, vous pouvez voir 3 ou 4 chefs-d'œuvre uniques. Ça rythme un peu les sorties. C'est comme dans les romans. Toutes les rentrées littéraires, c'est 600 chefs-d'œuvre.
Voilà. OK. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans cette ère du superlatif?
On en sort, au secours. Non, c'est vrai que vous êtes, il y a une rhétorique de la compétition, de la guerre. Tu le soulignais toi-même, soi-disant du sport. Écoutez les chroniques sur les futurs Jeux Olympiques, c'est à mourir de rire quand même. Hein. La performance, le marathon de Paris, c'est couru dimanche dernier. Le mec, il finit en 2h05 quand même. Ouais. Il a 26 ans. Vous savez comment il a fait? Pour courir un marathon, il s'est préparé sur 1500 mètres. C'est-à-dire, il a couru les 1500 mètres et quand il a bien rentré la vitesse du 1500 mètres, crac, il l'a passé au marathon.
Okay.
Comment? Je ne sais pas. Enfin voilà. Donc, il faut effectivement se sauver de ça. Et il me semble, on en a évidemment un petit peu parlé, on ne découvre pas ça avant, mais il me semble que le simple recours à la vérité.
Alors le simple mot de vérité, oui. il est beaucoup plus vaste qu'il en a l'air, parce que moi j'allais te questionner justement sur cette idée de, on produit un langage, donc ça veut dire qu'on détermine certaines choses comme étant véridiques et d'autres qui relèvent du mensonge, voire de l'infamie.
Oui. Alors je suis d'accord avec toi que ça peut être suspect, n'est-ce pas, de prôner contre des représentations qui se présentent comme vraies, évidemment en général, une autre vérité. C'est-à-dire, bon, si on rajoute du discours au discours, on ne va pas sortir spécialement. D'un point de vue philosophique, quand même, il faut arrêter à un moment donné de s'en mêler les pinceaux. L'intelligence humaine, elle est faite pour penser les choses sensibles, dont tu parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'est faite notre intelligence. Nous sommes des mammifères, nous avons un mouvement local. Notre intelligence, elle est faite pour nous repérer dans un escalier, par exemple. Pas rater une marche, quoi. Enfin, ça sert à ça, l'intelligence, au départ. Hein. S'habiller quand il fait froid, enfin, je sais pas. Bon. Et progressivement, mais en même temps, pour être plus exact, c'est pas daté historiquement, notre intelligence, elle est faite pour se pencher sur les représentations que nous nous formons des choses. C'est-à-dire, toi, tu as une façon de voir les choses, Clara en une autre, Sylvain une autre, et moi, j'en ai encore une quatrième, et au lieu de réfléchir à la table qui est devant nous, on va réfléchir à la façon dont vous, voyez la table, le pied de micro, etc. Bon. Alors, c'est évidemment intéressant, mais on est à la limite de la perversion de l'intelligence. Alors, ce qu'on a envie de dire, c'est, je ne vous propose pas une vérité de plus, je vous propose juste d'aller voir.
Ouais.
Voilà.
C'est la responsabilité professionnelle de l'historien, non de... Alors autant l'histoire qui perdure est écrite par les dominants et les puissants, les vainqueurs. Par contre, le travail d'historien, il vise à détricoter des fois des faits qui étaient présentés comme véridiques à une époque pour en amener une nouvelle lecture et se rendre compte que pas du tout. Par exemple, quand on a, en 2003, quand George Bush Jr. a décrété que Saddam Hussein en Irak produisait des armes de destruction massive, il a présenté des preuves qui ont été fabriquées de toutes pièces et on l'a su après coup. Mais on l'a su, on avait déjà envahi l'Irak, on a déjà lancé la guerre en Afghanistan.
C'est le propre des conneries, c'est-à-dire quand on se rend compte que c'est une connerie, elle est déjà faite. C'est un peu le problème. Donc effectivement, alors, c'est vrai qu'on peut toujours brandir. C'est d'ailleurs le premier artifice du médium. Le premier artifice du médium, c'est de vous détourner de la recherche de la vérité en vous disant qu'elle n'existe pas. Mmh. Il faut se méfier de ça. Il y a un discours relativiste, un discours perpétuellement sceptique, qui peut, alors là, il est toute catégorie confondue en matière de politique, de spiritualité. Il n'y a pas un camp particulièrement développé dans ce domaine. On vous fait croire que la vérité n'existe pas, la vérité absolue, et par conséquent, on vous détourne de la chercher. Mais quand on étudie l'histoire, moi je m'intéresse par exemple à mon saint patron qui vivait en Cône au 6e siècle de notre ère. Bon. Je suis quand même capable de faire la différence entre les choses qui se passaient là-bas à cette époque. On a des écrits, on a du mobilier, on a de l'architecture, on sait des choses quand même. On a des documents, philologiquement, on peut faire de la paléographie, on peut faire de l'archéologie, on peut savoir des choses. Et si je m'en tiens juste à ce que je sais par ces moyens-là, c'est sûr que ça va pas être sexy. Parce que ça va être plus de questions que de réponses. Ça va être, bon, Ok, mais là-dessus, on pourra se reposer quand même.
En fait, de produire des représentations prêtes à penser, prêtes à utiliser, c'est une manière de, tu dis, de détourner les gens de la quête de la vérité, mais il y a aussi utiliser une forme de paresse qui est inhérente à tout le monde, et on a peut-être rapidement tendance à se dire que la vérité, si elle existe, est trop complexe pour être appréhendée comme telle, et bah du coup on décide de s'en remettre à un gourou, un prêtre ou BFM TV ou Cyril Hanouna, qui va d'ailleurs jouer au tennis dans une cage ce week-end.
Tout est possible, hein. Il y a dans l'époustouflant, on peut encore avancer, hein. Non, je crois que ce qui peut être intéressant, je veux dire, je le dis comme ça à titre presque pédagogique, la vérité, il faut en faire l'essai. C'est-à-dire, il est évident que si tu me demandes ce que je pense du dernier appareil de résonance électromagnétique 100 fois plus puissant que celui qui est utilisé dans les IRM, dans les hôpitaux, je ne vais pas t'en parler pendant des heures, on est bien d'accord. Bon, mais il y a des gens dont c'est la spécialité, à qui je fais confiance. Bon. Donc, et par contre, qu'est-ce que j'appelle faire l'essai de la vérité ? Eh ben, c'est à n'importe quel moment de la journée, se taire, arrêter tous les appareils, les écrans, les machins, s'asseoir ou s'allonger, et puis rejoindre la sensation. Ouais. Rejoindre son corps, rejoindre les bruits, qui voilà, les sons, voir les images. Moi, j'aime bien écrire des haïkus. Voilà, se mettre dans l'ambiance, choper le haïku qui passe. Alors, ouais. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle faire l'épreuve de la vérité. Ouais. Après, on peut pas venir me dire que la vérité n'existe pas, parce que ça consisterait. Il faudrait pour ça que tu me démontres que t'existes pas. Ouais. Ça va être compliqué.
Donc exercer son discernement, ça passe par d'abord être à l'écoute de ses cinq sens, en fait.
Bah complètement, oui, bien sûr. C'est par là qu'on reçoit l'information prioritairement. Et puis je pense qu'il y a deux choses, il y a nos cinq sens et puis le dialogue. Dialoguer, ouais, avec des gens qui nous paraissent un peu plus compétents dans tel domaine. C'est pas qu'on va leur demander de sortir leur diplôme et leur carte d'identité, c'est pas la question, mais on a quand même des moyens de s'assurer de ce que la personne qu'on a en face de nous ne raconte pas d'annerie, quoi.
Alors, nous vous invitons, l'heure avance, je suis désolé Olivier, et merci Clara d'être toujours là. L'heure avance, donc le rôle de nous comme médias libres, donc, c'est de concourir à aider à discerner une ou des vérités dans un brouhaha de représentation.
Ouais. Je pense que la vocation des médias, c'est d'abord de se nommer et puis ensuite d'inviter les gens à aller voir par eux-mêmes aussi.
Et bon, vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence 7 et on vous invite à creuser un peu plus ces questions en compagnie d'Olivier Horry ou en compagnie de qui que ce soit autour de vous. N'hésitez pas à continuer à débattre et à retourner chercher les sources de toutes choses. Pour la suite du programme de la journée, Sylvain, je vais avoir besoin de ton aide parce que je sais plus du tout, on est jeudi et qu'est-ce qui se passe cet après-midi ?
Alors, cet après-midi à 15h, bien sûr, il y aura le Télex, 17h, la rediffusion de cette émission, L'Onde Curieuse. Comme ça, si vous n'avez pas tout compris, vous pourrez
creuser.
18h, il y aura la collective, 19h, Éclectrique, à 20h, la playlist de mon pote, et à 21h, une émission spéciale
de la Smack 07.
C'est ça, un menu Big Smack 07. C'est la Radio Michelin qui nous a envoyé ça, ils sont avec la Smack 07, ils détaillent tout le programme de la Smack 07 de demain jusqu'à juillet.
Eh ben super, restez à l'écoute de Fréquence 7, merci Clara, c'est ton premier passage radio ?
Oui.
Eh ben,
ah oui,
brillant.
Ah oui.
Bravo. Merci Olivier d'avoir été là, et merci Sylvain, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Onde Curieuse, salut.
Merci à vous.